France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Sacrée superstition, une histoire entre raison et religion, car elle est compliquée à manier, cette notion de superstition. Elle nous oblige à mobiliser un autre regard, un peu comme pour l'hérésie. Quelqu'un est hérétique aux yeux d'une autre religion qui elle-même est une hérésie selon le regard de l'autre. Bref, qui est superstitieux? Celui ou celle qui croit au pouvoir des reliques, des miracles ou qui n'y croit pas? Et rappelons ce sage adage, il ne faut pas être superstitieux parce que, tout simplement, ça porte malheur.
On désigne la superstition comme étant la religion des faibles.
Le cours de l'histoire.
Est-ce qu'entre la magie et la religion, il y a un lien? Je pense que la superstition est beaucoup plus liée à la magie qu'à la religion. Mais je crois que plusieurs générations de sociologues ont essayé de résoudre ce problème en vain.
Des imbéciles, c'est trop facile à dire. Que celui qui en est sûr jette la première pierre.
Oh, oh!
Aïe! Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, la superstition avec vous, Philippe Martin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire à l'université Lumière Lyon 2. Vous êtes spécialiste de l'histoire des religions. Nous allons parler des Lumières avec vous. Alors, c'est pas le Lumière de l'université Lumière, mais c'est le siècle des Lumières. Dites-nous, Philippe Martin, j'évoquais pour ouvrir cette émission la difficulté de définir ce mot de superstition. Comment vous, vous l'appréhendez?
Alors, je l'appréhende de deux manières. D'abord, la superstition, enfin, quand on utilise le mot superstition, on décrit un fonctionnement de l'esprit. Un fonctionnement de l'esprit qui essaye de se rassurer en créant des chaînes causales qui ne sont absolument pas logiques. Et à ce niveau-là, on est tous superstitieux. On l'a toujours été, ça ne dépend pas de notre niveau d'études. Voilà, c'est pas les mêmes superstitions pour quelqu'un d'analphabète et pour quelqu'un de formé, mais en tout cas, on est tous superstitieux, on fonctionne tous par raccourci. Puis la superstition, c'est un mot qui qualifie ou disqualifie. Voilà, moi je ne suis pas superstitieux, je suis croyant, mais vous bien sûr, vous êtes un affreux superstitieux, et donc je vous condamne. Mais je pense que vous pensez la même chose de moi.
C'est ça, c'est un va-et-vient avec ici l'idée de quelque chose qui n'est pas logique. Est-ce que les gens qui sont superstitieux ont conscience de ce manque de logique? Parce qu'une personne superstitieuse, bah pour elle, ça va peut-être être un peu logique parfois.
Exactement. Tout superstitieux obtient ce qu'on appelle un biais de confirmation. C'est-à-dire qu'inconsciemment, il se crée une raison de faire les choses. Par exemple, pourquoi le 13 est-il un chiffre négatif? Eh bien, on vous dira, mais oui, mais c'est parce que à le moment de la mort de Jésus, ils étaient 13 à table.
Et il y en a un qui meurt.
Et voilà, il y a un traître et un mort.
Oui.
Mais ce qui est une erreur, parce que les Romains considéraient déjà que le 13 était négatif, donc Jésus n'était pas là. Mais nous sommes dans une société chrétienne, donc cette société chrétienne se cherche un biais de légitimation, et c'est une histoire chrétienne. Donc le superstitieux, en effet, n'a pas conscience, parce qu'il va toujours vous dire « Non, mais ça s'est toujours fait comme ça, il y a pas de preuves, mais ma grand-mère me le faisait, mais j'ai vu sur YouTube un truc, etc. » Il y a toujours une raison.
Voilà, faut pas mettre le pain à l'envers sur la table parce que ça porte malheur. C'était comme ça qu'on mettait le pain du bourreau. On a toujours une explication.
On a toujours une explication. Ah, la meilleure explication, celle que j'adore, c'est on ne dit pas le lapin sur un bateau. On dit l'animal à grandes oreilles. Pourquoi? Parce que les lapins sur les bateaux grignotent les poutres et les bateaux coulent. Vous imaginez honnêtement qu'on va mettre un lapin sur un bateau? Voilà, on ne mange pas de lapin à l'époque moderne. Et deuxièmement, vous avez vu la taille d'une poutre de chêne. Il faudrait quand même des années pour un lapin. Voilà, mais on a une explication.
Et donc, on est rassuré, ouais.
Et voilà, l'idée, c'est qu'on est une espèce, nous autres, les humains, qui ne supporte pas le doute. Donc, on se rassure avec des superstitions.
Et c'est pourquoi le regard de l'historien est utile ici. Philippe Martin, vous êtes l'auteur de Superstition, histoire d'un mot, 15e, 21e siècle. Ben, justement. Là, il y a quelque chose à tracer. C'est l'histoire de ce mot superstition. Quand arrivez-vous à l'identifier le plus lointain possible?
Le plus loin du loin du loin, c'est l'Antiquité. Alors l'Antiquité, c'est super plus. Voilà. Le superstitieux, c'est celui qui prend une pratique normale et qui en fait plus. Voilà. Si je prends notre monde occidental, faire un Notre Père dans le monde chrétien, c'est tout à fait normal. Faire trois Notre Père, c'est encore normal. Mais faire trois fois Notre Père aux trois heures du jour, ça, c'est plus. Et ce plus, ça vient de la superstition. Le mot décline un peu au Moyen-Âge, on n'en parle pas trop. On préfère parler d'hérésie, on préfère parler de monde dual, etc. Et le mot va revenir avec force à la fin du 15e et au début du 16e siècle. Le mot est à ce moment-là un mot purement occidentale, qui nous permet de comprendre un monde qu'on ne comprend pas en réalité. Et puis finalement, l'Occident va finir par imposer le monde, le mot au monde entier, et le mot va apparaître par exemple en chinois ou en japonais vers 1890. Au fur et à mesure que l'Europe connaît le monde, s'installe dans le monde, elle installe aussi ce concept.
Comment l'expliquez-vous que ce soit à ce moment-là, vers le 15e siècle, que l'on voit ce mot ressurgir? Parce qu'il existait, vous nous le disiez, durant l'Antiquité.
Il y a trois raisons. La première raison, les Européens vont partir à la découverte du monde. Alors, ils ne découvrent pas le monde, bien évidemment, le monde il est déjà peuplé. Mais pour eux, c'est la rencontre avec l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autre? L'autre, est-ce que c'est un juif? Non, c'est pas un juif. Est-ce que c'est un musulman? Non, c'est pas un musulman. C'est les deux types de peuples qu'on connaissait. Alors, est-ce que ce sont des gens voués au diable? Ah, peut-être. Puis, est-ce que ce sont des animaux? Ah, des animaux, certains disent oui, c'est des animaux. Parce que des animaux, on peut les mettre en esclavage. Puis d'autres disent non, ils sont pas tout ça. Ils sont un petit peu inférieurs à nous, mais ils sont humains. Et là, on va utiliser le mot superstition pour dire leur culte. Vous voyez, utiliser le mot superstition, c'est un moyen de mettre les gens à l'intérieur de l'humanité, mais à un niveau un peu inférieur.
Nous entendons là, Philippe Martin, un chant vaudou, j'entends bien. Votre première raison pour expliquer pourquoi au XVe siècle la superstition ressurgit, un chant vaudou. Pourquoi ne pas utiliser à ce moment-là l'idée d'hérésie? Parce qu'on pourrait dire ça, c'est une autre religion, c'est une hérésie. Alors l'hérésie, ça a l'idée que c'est notre religion qui est un peu transformée, et comme on n'a pas vraiment de mots, on invente ou on refait surgir ce mot de superstition.
L'hérétique, c'est celui qui a la possibilité de connaître le christianisme, c'est celui qui s'est retiré du christianisme. Enfin, vous prenez un Caribe, un habitant des Antilles, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être chrétien. On ne peut pas lui dire « vous êtes hérétique », puisque l'hérétique, il a trahi. Alors on peut dire « vous êtes un animal », on peut dire « vous êtes possédé par le diable », ou on peut dire « vous êtes superstitieux ». Dire être superstitieux, c'est quand même déjà une bonne chose dans le regard qu'on porte sur l'autre.
Avec ce regard porté sur l'autre, ici, nous avons, au moment où les Européens parcourent le monde, tant et tant de rencontres, donc tant de superstitions. Mais la question se pose sur ce qui se passe chez nous au même moment, parce que il y a ça aussi. Moi, j'entends bien Philippe Martin. Je les attends, les trois raisons. On en a une. Hein,
c'est et vous venez de donner la deuxième.
C'est celle-là?
Eh ben oui. C'est tout simplement que, pendant très longtemps, la population, la culture était assez mêlée. À partir de la Renaissance, il va y avoir de plus en plus une fracture entre ce qu'on peut appeler une élite et des classes rurales. Et l'élite ne comprend plus ces classes rurales. Ce que font ces classes rurales lui apparaît complètement, complètement étranger. Alors, on sait bien que c'est pas de l'hérésie. On sait bien que c'est pas démoniaque. Donc, une fois de plus, on va utiliser le mot superstition pour dire les choses. Bon, le culte des saints pour un catholique, c'est normal. Bon, mais prendre une statue de saint, la gifler parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, ou lui donner une fessée, ou le mettre au coin, eh bien ça, un certain nombre de clercs du 15e, 16e siècle disent, ça c'est de la superstition. On part de quelque chose de juste, le culte des saints, mais on dérive vers quelque chose qui est exagéré, superstition.
Voilà, c'est vraiment l'étymologie du mot, hein. C'est aller trop loin, mais ça c'est quelque chose, bien sûr, qui est observé depuis longtemps par l'Église, hein, de se dire quelle est la limite ici entre le culte accepté et puis le culte où il est obligé de dire, ah, ben non, là ça va un tout petit peu trop loin.
Pendant longtemps, ce trop loin aurait pu apparaître comme quelque chose où vous étiez poussé par le diable. Et pendant longtemps, le mot ce qui recouvre la superstition aurait pu être couvert par le démoniaque. Mais on est à une époque où les choses commencent à bouger, donc le mot superstition revient avec force.
Le mot superstition revient avec force en observant des pratiques qu'on qualifie de populaires, parce que c'est ça aussi, c'est extrêmement concret. Ça laisse des traces pour l'historien, toutes ces pratiques, si ce n'est par les dénonciations, on l'entend bien par les clercs qui disent « attention, ça faut arrêter de gifler ce saint quand même ».
Alors là, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. C'est-à-dire que les superstitions ont une histoire. Et à l'historien de retrouver les traces. Il y a une erreur fondamentale, c'est de dire, tiens, les gens font quelque chose, donc c'est populaire, donc ça a toujours existé. Vous voyez, ça remonte aux Gaulois, ça remonte aux Celtes, des choses comme ça. Non. Il faut trouver les documents. Et les documents, ils existent. Les documents, ils sont de deux types. Il y a d'abord les documents par l'autorité. Donc, les condamnations, les clercs, alors ils ont énormément écrit, les philosophes, etc. Et puis, il y a des documents où les gens vont parler de ce qu'ils font. Alors, ils peuvent parler sous la contrainte. Les procès de sorcellerie sont une superbe occasion de voir la superstition, parce qu'on interroge les gens. Alors, vous n'êtes pas exécuté pour superstition. Mais le juge, il commence par vous faire parler un peu de vos superstitions. Du coup, vous commencez à trembler un peu sur votre identité. Et puis après, on vous prouve que vous avez le pacte du diable. Et hop, vous êtes brûlé. Mais les premières parties du procès sont extrêmement intéressantes pour nous, historiens, parce que ça nous donne des éléments. Et puis, ben, les superstitieux ne sont pas des imbéciles. Hein. Donc, il y a beaucoup de recettes. Et on note ces recettes. Et il y a des livres de recettes qui se transmettent. Et ces livres de recettes, ils existent toujours en notre 21e siècle. Alors certains ont parcouru comme ça le temps. Et c'est passionnant, quand vous êtes dans une campagne, par exemple, du Haut-Jura, de retrouver un livre dans lequel quelqu'un a mis des recettes en 1930 et de remonter les pages et découvrir des recettes du 16e siècle. Vous voyez, il y a une filiation. Les sociétés sont suffisamment fortes pour inventer leurs propres superstitions. Alors, il ne faut surtout pas enfermer les superstitions dans un temps immémorial comme ça, qui traverserait.
Mais il le faut pour qu'elles puissent se développer. L'idée que ça a toujours été comme ça donne un argument qui peut convaincre. Hein. On a toujours fait comme ça. Donc, ne pas chercher d'où ça vient, ça permet de renforcer l'idée de superstition.
C'est le biais de légitimation dont on parlait il y a un moment. En effet, je fais comme ça. Si je réfléchis deux secondes, c'est pas logique. Oui, mais ma grand-mère a fait comme ça. Mon arrière-grand-père a toujours fait comme ça. Et puis, il y en a d'autres, des gens célèbres qui le font. Donc, c'est bien. Ce que je fais est légitimé. Mais ce n'est pas populaire. Parce que des superstitions, il y en a partout.
Ah oui.
Et moi, je vous raconte une histoire comme ça, tout à fait personnelle. Alors, je ne donnerai pas de nom, hein, parce que la personne est connue. J'étais étudiant et mon professeur me dit « Écoutez, Martin, il faut aller chercher le professeur machin du Collège de France, parce que ça va être le temps de sa conférence. » Alors, je toque à la chambre du professeur machin. « Écoutez, monsieur, etc. » Et le monsieur qui était en chemise me dit « Écoutez, un instant, Martin. » Il se met à tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour de l'ampoule électrique qui pendait du plafond. Et il me dit, vous comprenez, comme ça je me recharge en énergie. Donc c'était une superstition. Et là, tout jeune, je me suis dit, d'accord, on est tous superstitieux.
C'est une sommité de l'université qui
ah non, pas de nom, pas de nom.
J'aurais tenté, hein. Vous nous avez conduit dans le Bas-Jura il y a un instant. Moi, je vous propose d'aller en Normandie.
Prière pour arrêter le sang de telle coupure que ce soit et de toutes sortes de plaies. Dieu est né la nuit de Noël à minuit. Dieu est ressuscité. Dieu a commandé que le sang s'arrête, que la plaie se ferme, que la douleur se passe, et que ça n'entre ni en matière, ni en senteur, ni en chair pourrie comme ont fait les cinq plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Natus est Christus. On répète trois fois ces mots latins, et à chaque fois on souffle, en forme de croix, sur la plaie, en nommant de la personne, disant « Dieu t'a guéri, ainsi soit-il. » On commencera ensuite la neuvaine à jeun, à l'intention des cinq plaies de notre Seigneur Jésus-Christ.
Anouk Mignot, dans le cours de l'histoire, qui nous lisait des prières superstitieuses issues du Pays d'Ouche. Ça se trouve en Normandie, c'est la région de l'Aigle. Ici, nous avons un discours qui est d'ailleurs très bien construit et qui, du XVIe siècle, traverse le temps. C'est quelque chose d'ailleurs qui reste dans les mémoires.
Exactement. Moi, ça, on me l'a rapporté en 1990 dans les Vosges. Et puis, il y a une collègue, Fabienne Henriot, qui l'a retrouvé dans les Vosges il y a 2 ou 3 ans. Et puis si je remonte le temps, je retrouve ça avec des gens qui ont été jugés au début du XVIe siècle, toujours dans cette région. Il y a une dame, elle s'appelait Monique Henriot. Et ben Monique Henriot, elle a réussi comme ça à éviter le bûcher. Mais d'un autre côté, elle raconte la même chose. Ce qui fait que sur presque 500 ans, j'ai finalement ce rite. Et ce rite, il est passionnant. Parce que d'abord, il joue sur l'analogie. Hein. Dieu a été crucifié. Dieu a fait couler son sang, mais Dieu n'est pas mort. Donc moi, je fais couler mon sang. Enfin, vous coupez pas avec une tronçonneuse, quand même, une petite coupure. Dieu a fait couler son sang, il n'est pas mort, je fais couler le mien, je ne meurs pas. Deuxième chose, on utilise des paroles latines. La langue des prêtres, la langue qui transforme le pain en corps du Christ. Magie. Ensuite, on utilise des répétitions, les trois. On va rester trois fois les choses. Puis ensuite, on a encore des gestes, parce que quand vous dites ça, au moment où vous restez les paroles latines, vous devez souffler sur la plaie avec la tête en allant de haut en bas et de gauche à droite, c'est-à-dire à faire le signe de croix. Et cette pratique donc, qu'on vient de suivre dans les Vosges ou en Normandie, on va la retrouver un petit peu partout, sauf en Angleterre, où en Angleterre, jusque dans les années 30, il faut prendre le couteau avec lequel vous vous êtes coupé et puis le laver au savon. Vous le lavez au savon parce que comme ça, votre plaie ne va pas se salir.
Ah oui, d'accord. Bien pratique en tout cas, hein, parce que pas besoin d'outils complexes. Un peu de savon, un couteau, on arrive à arrêter le sang. Pour le feu, c'est la même chose. On entend beaucoup de choses autour de ces superstitions. Alors, superstition, on sent bien que le mot est complexe à utiliser parce qu'il y a des gens pour qui c'est une réalité, mais peuvent arrêter la sensation de brûlure.
Alors, d'abord, il faut bien préciser à nos auditeurs que si vous avez une plaie, vous prenez des médicaments, vous soignez tout, hein, vous évitez que personne ne vienne dire c'est de la faute du professeur Martin, que j'ai la gangrène et tout. Hein. Je tiens à préciser une ou deux choses quand même. Hein. Bon, mais en effet, il y a une question qui est une question importante, c'est pourquoi les gens croient à ça. Il y a dans beaucoup d'endroits, les villes, les campagnes, ceux qu'on appelle les coupeurs de feu. Les coupeurs de feu, c'est comme vous le dites, ceux qui empêchent les brûlures. Or, vous savez que dans de nombreux services d'oncologie, qu'est-ce qu'on fait ? En particulier pour les femmes, après l'ablation du sein, elles vont avoir des rayons et tout, on glisse sur la table comme ça le nom d'un coupeur de feu. Alors certains médecins vous disent, c'est vrai. D'autres médecins vous disent, j'en sais rien. D'autres médecins vous disent, non mais c'est psychologique, pendant que la patiente elle croit que les choses, la guérison va se faire paisiblement. Et ces coupeurs de feu, ben, sont extrêmement nombreux, alors certains se font payer, puis d'autres rien du tout, juste un coup de fil, ah, madame, vous me direz, etc. Alors est-ce que c'est un effet placebo ? Est-ce qu'il y a un réel pouvoir ? Là, moi je suis un incompétent, donc je me retire. Mais je remarque que face à l'angoisse, face à l'incertitude, face à la violence qui est faite au corps extérieur, on requiert un niveau de superstition parce que ça rassure.
Et puis il y a aussi l'angoisse hein, dans ces siècles passés et aujourd'hui encore face à la maladie. Et ces superstitions sont là pour rassurer parce que ça donne un espoir quand parfois il n'y en a pas.
Exactement. Mais pas uniquement dans les siècles passés. Vous vous rappelez de 2020, le confinement. Puis on nous a dit, oui, on va manquer de farine. Moi, je vais me manquer de farine. On va manquer de papier toilette. Moi, je vais me manquer de papier toilette. Mais vous savez, il y a une chose dont on a manqué. Rupture de stock dans toute l'Europe. La main de la figue. Et la main de la figue, c'est un talisman qui existe depuis les Romains. C'est un point fermé, le pouce remonte entre les doigts, juste le haut du pouce. Impossible de trouver la main de la figue. On est en Europe, en 2020, dans un continent qui se veut moderne, rationnel et tout, et on a manqué de talisman pendant la Covid.
Ah oui, donc ça veut dire que ces superstitions demeurent avec ce lien entre la superstition et la religion qui est un lien complexe ici. Et bien sûr, au moment d'aller chercher du réconfort et peut-être une manière de trouver la guérison, il y avait la possibilité de chercher les reliques.
Münster est la commune la plus orientale de Suisse, à 1 kilomètre seulement du Tyrol italien. Un document des archives du couvent atteste l'existence de reliques de valeur dans la chapelle de la Sainte-Croix au début du XVIe siècle. Une épine de la couronne portée par Jésus avant sa crucifixion, un éclat de sa croix, ainsi qu'un fragment d'os de Saint Jean-Baptiste. Quand la restauration de la chapelle a commencé, en 2008, les archéologues en ont profité pour chercher ces objets. Mais il n'y avait rien et le projet a presque capoté. Ce n'est que dans un deuxième temps, alors que je nettoyais cet endroit avec un aspirateur, qu'un fragment de crépi s'est détaché très facilement. Ça m'a étonné. Et c'est ainsi que nous avons découvert qu'il y avait bien une niche, mais décalée sur le côté. À l'intérieur, il y avait un récipient de verre scellé à la cire et qui avait manifestement contenu des reliques. Le couvercle a été soulevé en public. Tout le monde s'attendait bien sûr à trouver des reliques décrites dans les archives.
Mais le réceptacle ne contenait aucun des objets qu'on s'attendait à trouver. Au lieu de cela, il a révélé des fragments d'os de 4 saints, dont 2 totalement inconnus.
Bon, c'était pas les reliques attendues, c'était pas la relique de la Sainte Croix, mais bon, il y en avait quand même. Mais c'était des saints inconnus, c'est ballot. Nous étions sur Suisse Info en 2013, en Suisse. Donc, Philippe Martin, dans les raisons qui nous font comprendre pourquoi, autour du 15e, 16e siècle, ce mot de superstition, oublié hein, depuis l'Antiquité, surgit de nouveau. Il y a le regard porté sur les pratiques au lointain. Que sont ces gens? Que font-ils? Ils sont superstitieux. Il y a ce regard porté par les clercs sur ce qui est populaire. Vous nous l'avez dit, mais vous nous avez promis trois raisons. Alors, quelle est la troisième?
Et la troisième raison, c'est l'éclatement du christianisme avec la naissance du protestantisme. Alors, comment les catholiques et les protestants peuvent se traiter? Puisqu'ils sont devenus ennemis. Alors, on peut pas dire, un catholique ne peut pas dire à un protestant, tu es hérétique. Ça, il peut encore. Il peut. Mais alors mieux, tu es superstitieux.
Oui.
Et pour les protestants, par exemple, les reliques des catholiques, ce sont des cultes superstitieux. Pour les catholiques, par contre, le fait que les protestants refusent les intercesseurs, c'est de la superstition. Au moment d'une épidémie de peste, les habitants de Genève refusent l'entrée de leur ville aux Lyonnais parce que les Lyonnais sont porteurs de maladies. Et les Lyonnais refusent l'entrée de la ville aux Genevois protestants parce qu'ils sont porteurs de maladies. On est là face aux superstitions. Superstitieux devient l'insulte facile pour dire on reste quand même dans le monde chrétien, mais on est quand même différent.
Ouais, c'est vraiment quelque chose pour discréditer l'autre de manière violente. Et d'ailleurs, au milieu du XVIe siècle, Calvin, restons du côté de la Suisse, écrit un traité des reliques.
Bien sûr, mais comment voulez-vous ne pas faire un traité des reliques? Tout à l'heure, on écoutait là un petit son autour du relique de Saint-Jean-Baptiste. Mais vous savez qu'il y avait 5 crânes de Saint-Jean-Baptiste entiers, dont un de Saint-Jean-Baptiste enfant.
Ah, il est beau celui-là, il est très très beau.
C'est chez Calvin, voilà. Il y avait 7 corps entiers de Saint-Jacques de Compostelle, sachant qu'au XVIe siècle, on a ouvert le tombeau de Saint-Jacques de Compostelle et il n'y avait pas de saint à Saint-Jacques.
Donc il était, mais en plusieurs morceaux ailleurs, mais avec plusieurs corps aussi.
Voilà, mais ouais. Bien sûr, ce serait... Alors, finalement, là, il faut comprendre la position de l'Église catholique. La position de l'Église catholique dit que, de toutes les manières, tous ces éléments, en réalité, ne sont pas des obligations de croyance. Pas du tout obligé de faire ça. Mais l'Église catholique considère que ces reliques, ces objets, ces pèlerinages, dénoncés comme superstitieux par les protestants, sont extrêmement utiles. Soit parce que ça va, alors j'utilise le mot actuel bien sûr, des mots anachroniques, ça va calmer les gens, ça va faire face à une douleur psychologique tout à fait réelle, et donc bah, autant qu'ils fassent ça plutôt qu'ils désespèrent. Et puis il y en a qui croient vraiment à l'efficacité de ça. Mais l'Église est extrêmement, extrêmement prudente. Regardez le nombre de millions de personnes qui sont allées à Lourdes, le nombre de milliers de cas de gens qui ont dit « j'ai été guéri », et le nombre de guérisons reconnu, inexpliqué par l'autre, à peine autour de 70. Vous voyez, l'Église est très très prudente. Elle n'interdit pas, mais elle fait attention. Et le fait de faire attention ne suffit pas pour les protestants. Les catholiques sont d'affreux superstitieux.
Et je rappelle, hein, Philippe Martin, que vous avez une approche d'historien. Vous n'êtes pas en train de dire tout ça, c'est vrai, c'est faux. Vous analysez le phénomène.
C'est comme pour les coupures, bien évidemment. J'essaye de faire comprendre ce que les gens pense, sachant que chacun insulte l'autre de son côté.
Oui, superstitieux, c'est une insulte d'une violence inouïe au XVIe siècle, au moment des guerres de religion. On entend bien ce positionnement hein, qu'il y a. Et d'ailleurs, ça change la manière dont l'Église peut percevoir ses cultes. Parce que quand vous nous disiez, oh oui, c'est le moment où on observe ce qui est fait par les gens, comme ça, en se disant méfiance, oui, mais dans le même temps, ben, ils restent attachés à des croyances et à leur saint. Alors, c'est peut-être pas bien de gifler le saint, mais au moins le saint est là.
Voilà. Mais d'un autre côté, l'Église catholique va reconnaître l'intercession des saints, mais enlever de très nombreuses statues. Vous imaginez ? On avait un saint lévrier. Un lévrier, un chien, comme ça. Enfin, on supprime ça. Enfin, à un moment, là, les reliques de Saint-Jacques de Compostelle, l'Église remet de l'ordre en disant non, ça va pas. Même chose pour Saint-Hubert, le patron contre la rage. Il y avait deux églises qui disaient j'ai le corps entier de Saint-Hubert. Une dans l'actuelle Belgique et une dans l'actuelle France. Donc l'Église va remettre ça, enlever beaucoup de choses. Et ça serait pas étonnant que dans la Suisse dont on a parlé, le fait qu'on ait mis, vous voyez, des reliques dans un mur bien fermé, soit cette politique du XVIe siècle. On ne les supprime pas, donc on n'attaque pas de front les croyances des gens, mais on les met dans un endroit, on les oublie, on perd leurs traces, et on espère tout simplement que l'attention des gens va se tourner vers autre chose.
Et puis il y a la volonté de les préserver en cas d'attaque, on ne sait jamais, au temps des guerres de religion, même si là nous étions en Suisse, avec toujours, dans le cas des superstitions populaires, c'est un peu comme les préjugés. Je ne dis pas un fond de vérité, mais ce que vous expliquez, alors parfois il y a un argument lointain qui peut nous aider, et dans le cas des maladies, il y a aussi des pratiques, des connaissances qui font que, allez, ici ça peut être quelque chose qui, à la base, avait un petit effet, et puis après transformé, modifié, on a quelque chose qui devient ça. Je vous le dis parce que auditeurs, auditrices du cours de l'histoire qui nous écrivent rappellent que, attention, les lapins peuvent manger les cordes sur les bateaux, et que ça, c'est dangereux.
Exactement. Je ne sais pas combien il y a de nos personnes qui nous écoutent, là, aujourd'hui, de gens qui portent des diamants. Hein, c'est joli, les diamants. Mais pourquoi portait-on des diamants? Parce qu'au Moyen-Âge, dans les facultés de médecine, on vous expliquait que la pureté du diamant était un moyen de détourner les maladies. Puis après, les progrès de la médecine ont fait qu'on a abandonné cette idée de la guérison par les pierres, mais c'est resté chez les gens. Donc ce qui était traité médical au XIVe, XVe siècle devient au XVIe, XVIIe siècle une superstition. Et on va porter des diamants lors des grandes épidémies de peste et tout. Et puis après, qu'est-ce qui se passera? On continue à porter des diamants, mais on a complètement oublié la raison pour laquelle on le portait.
Ah oui, le diamant, c'est la pureté. Parce que vous trouvez à l'intérieur de tous ces textes, ces explications. Alors bien sûr, aujourd'hui, nous avons ce recul, même si, et vous le dites avec raison, dans le cas des pierres, par exemple, des pierres qui peuvent soigner, on en trouve encore aujourd'hui. En tout cas, l'effet des pierres au contact de la peau, ça, c'est quelque chose que nous avons tous croisé à un moment. Mais dans ces traités, il y a la volonté de mettre en place un discours savant ou pseudo-savant pour expliquer ces superstitions.
Il y a dans toute la littérature soit des arguments pour prouver que c'est vrai, soit des arguments pour prouver que c'est faux. Ce qui veut dire que ces traités, et on a des traités de religieux à la fin du XVIIe siècle, comme le père Lebrun, le père Jean-Baptiste Thiers, etc., on a une foule d'explications, une foule de justifications de ces choses, ou de justifications négatives, c'est-à-dire de critiques. Et pour l'historien, c'est là qu'est son pain béni. Parce qu'on voit un petit peu qu'est-ce qui courait dans la société.
Oui, parce que c'est bien cela, hein, c'est trouver ce qui habituellement ne laisse pas beaucoup de traces, c'est-à-dire les pratiques populaires, si ce n'est par les condamnations. Là, c'est une source biaisée. Ici, la parole du curé est bien importante. Moi, je vous propose le père Albert.
Ils vont au jour de la fête de Saint-Jean, puisqu'il s'agit de Saint-Jean ici, ou le jour le plus approché, le dimanche le plus approché maintenant. Ils viennent, et alors je les ai vus évidemment quelquefois, ils le font avec discrétion, n'est-ce pas? Enfin, ils plongent par exemple un pied qui a des rhumatismes dans la petite fontaine, il y a qui est très pratique, ou ils emportent, ils se frottent les yeux avec cette eau qui est bienfaisante, je dis pas miraculeuse bien entendu, bienfaisante, ou soi-disant bienfaisante, et cela se reproduit, et ça ne les empêche pas de venir, même en dehors des jours de la fête. Hein. Mais enfin, la fête, ça a été pour solenniser, en quelque sorte, cette dévotion.
Pour vous, c'est une forme de superstition.
Oui, c'est un peu superstitieux. Mais enfin, dans la mesure, tout de même, il y a un certain recours à la prière. C'est une occasion maintenant de rassemblement pour rappeler un peu un certain passé. Alors, dont certains font une démarche qui a un but de guérison.
Le père Albert Grenier sur France Culture en 1995 à propos du culte des saints du Limousin. Il est gêné, le père, à dire c'est superstitieux, mais bon, pas tant que ça.
Votre document est superbe. C'est exactement ce qu'on dit depuis maintenant presque une demi-heure. C'est-à-dire, il reconnaît l'utilité, au moins, ça calme les gens, etc. Il considère pas que c'est quelque chose de complètement hérétique, mais en effet, il est gêné. Donc le mot superstitieux, vous voyez, ce mot superstitieux, c'est ce qui fait cette interface entre ce qui est licite, bon, on va aller prier un saint, etc., et ce qui est le trop. Le fait qu'on va guérir, etc. Et Là, le document a une trentaine d'années. Je suis à peu près persuadé que si on avait un son d'un prêtre du XVIIe siècle, il nous dirait la même chose.
Il dirait la même chose, mais Philippe Martin, vous nous expliquiez que on ne peut pas être condamné en tant que tel pour superstition. Vous êtes l'auteur de Superstition, histoire d'un mot. C'est publié chez Fayard et vous avez co-dirigé L'Europe des superstitions, une anthologie, donc 16e, 20e siècle. En tout cas, on a ici l'idée que superstition pourrait nous faire subir une terrible condamnation. Non, c'est pas ça. Ça rentre dans tout un discours qui conduit à la condamnation, mais pour autre chose.
Voilà. On a énormément de gens qui vont être condamnés pour sorcellerie, surtout des femmes, mais aussi des hommes, des enfants, etc. Et quand on a la chance de posséder les documents des interrogatoires, on commence d'abord par brosser un peu quel est le paysage mental de ces gens. Et c'est là qu'on trouve les restes de superstition. Puis après, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'accusation va s'accélérer. Et ce qui vous fait condamner, c'est pour vos superstitions. C'est le pacte avec le diable. Alors là, on est dans un autre registre, hein. Superstition, on l'a bien dit depuis une demi-heure, c'est ce qui nous rapproche, nous met un peu différents, mais nous rapproche. Alors démoniaque, alors là, vous êtes totalement exclu de l'Église. Donc, potentiellement coupable de quelque chose.
Le siècle des condamnations des sorcières, c'est le XVIIe siècle. Hein,
c'est le XVIe, XVIIe siècle. C'est pas 17e... eu tout le Moyen-Âge.
Ah non, mais c'est bien, il faut le rappeler, hein, Louis XIV, enfin, c'est cette période-là, un peu avant lui.
Louis XIV, il correspond bien à un tournant. Il y a une date très importante, ça date de 1682, où le roi de France décide que la sorcellerie ne relèvera plus des tribunaux. C'est-à-dire que tout le côté démoniaque, maintenant, l'Église peut faire les choses, mais c'est pas un crime. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que c'est n'importe quoi, la sorcellerie. Que c'est des fantasmes, c'est des accusations gratuites, etc. Par contre, on va considérer qu'il y a des escrocs qui utilisent les superstitions pour manipuler les gens. Et ça, on va les poursuivre. Et cette fin du XVIIe siècle, c'est vraiment un tournant fondamental sur l'approche de la superstition.
Oui, parce que ça y est, le monde change et c'est vrai qu'il faut rappeler que les croyances évoluent et que ces phénomènes que vous étudiez, en l'occurrence la superstition, doivent être sans cesse replacés dans le contexte. Donc au XVIIe siècle, on commence déjà à avoir une évolution du rapport à la superstition. Ce n'est pas les mêmes temporalités entre le monde qui vit la superstition, un monde populaire, un monde paysan, et puis le monde de celles et ceux qui pensent à superstition, on a des chronologies un peu différentes.
Exactement. Les deuxièmes vont un peu plus vite parce que certaines de ces superstitions, elles existent toujours aujourd'hui. Mais si vous voulez, au XVIe et XVIIe siècle, la superstition, ça relève du péché. Voilà. Quelque chose lié à l'Église, c'est quelque chose qui est toujours jugé selon une orthodoxie religieuse. À partir de la fin du XVIIe siècle, on va avoir tout un tas de philosophes qui vont amener d'autres explications. Les explications. Première explication, des gens comme von Mosheim, qui est professeur à Göttingen. Les superstitions, c'est des survivances. Deuxième explication, avec Jean-Baptiste Thiers, c'est les ignorants qui sont superstitions. Troisième explication, pour moi la plus convaincante, de le philosophe David Hume, c'est la crainte, la peur. Et on a, à ce moment-là, un quatrième regard, qui est le regard justement d'un certain nombre de gens qui, bien plus tard, donneront naissance à l'ethnologie et qui disent, mais finalement, les gens qu'on rencontre en Amérique, en Afrique, ce sont des superstitieux. Cinquième élément, c'est la dépénalisation de la superstition. Donc, on ne peut plus condamner, on ne peut plus accuser quelqu'un de superstition. Par contre, on peut s'apprendre à tous les escrocs qui utilisent la superstition. Et ça, ce regard qui change au XVIIe siècle, va induire les Lumières.
Et puis au XVIIe siècle, nous avons toujours cette place des médecins qui apparaît alors de manière exagérée dans la littérature, au théâtre aussi, des médecins et des malades, parfois imaginaires.
Qui est votre médecin?
Monsieur Purgon.
De quoi dit-il que vous êtes malade?
Il me dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la rate.
Ce sont des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade.
Du poumon?
Oui. Que sentez-vous?
Je sens, de temps en temps, des douleurs de tête.
Justement, le poumon.
Il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux.
Le poumon.
Et quelquefois des maux de cœur.
Le poumon.
Je sens parfois des lassitudes par tous les membres.
Le poumon.
Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre. comme si c'était des coliques.
Les poumons. Vous avez appétit à ce que vous mangez?
Oui, monsieur.
Les poumons. J'ai mis à boire un peu de vin.
Oui, monsieur.
Les poumons. Il vous prend un petit sommeil. Après le repas, vous êtes bien aise de dormir.
Oui, monsieur.
Les poumons. Les poumons, oui.
Le malade imaginaire de Molière, une mise en scène en 2008 avec Michel Bouquet et puis Juliette Carré. C'est absolument sensationnel, hein, le malade imaginaire. C'est 1673 et nous parlons, Philippe Martin, avec vous du regard de l'Église sur ces superstitions. Le regard du monde scientifique, du monde médical aussi est à prendre en compte.
Tout à fait. Et le monde médical va s'interroger. Alors il va s'interroger sur pourquoi on a tant de superstitions. De quoi il s'agit ? On remarque bien que les gens ont des comportements comme ça un petit peu étranges et tout. Et la pièce qu'on vient d'écouter montre que en cette fin du XVIIe siècle, c'est une interrogation assez générale. Et on s'en moque. Et on va se moquer de tout un tas de médecins qui demeurent en réalité fidèles à la tradition. Et la superstition, ça va devenir ceux qui refusent l'évolution. Et ce refus d'évolution, eh bien, va être considéré comme empêchant les lumières. Si vous empêchez les lumières, vous empêchez le progrès. Si vous empêchez le progrès, vous empêchez le bonheur. Pourquoi vous faites ça? Parce que vous êtes superstitieux. Et que tous ceux qui combattent la superstition, ce sont les alliés des États, ce sont les alliés du bonheur du genre humain, donc mort à la superstition pour qu'une nouvelle aube se lève.
Mais cette superstition-là, celle critiquée, telle que vous le faites au siècle des Lumières, c'est une superstition populaire parce que ici, nous touchons à quelque chose de très brûlant, c'est que dire superstition quand il s'agit de ce que d'autres appellent un culte, bah là, on risque beaucoup.
Alors, je suis désolé, hein, on va pas se disputer, je vais pas vous lancer ma patte de lapin, mais non, c'est pas populaire. Vous avez, par exemple, des affaires, hein, vous avez l'affaire des poisons. Hein, des gens empoisonneraient d'autres à la cour du roi de France. Là on n'est pas dans le populaire. Mais quand vous lisez les minutes du procès, vous apercevez quoi? Vous savez, on est au cœur des superstitions. Comment je peux gagner l'amour du roi? Comment je peux faire ceci, etc. C'est à ce moment-là qu'on invente les messes noires. On n'est pas du tout dans le populaire. Le roi de France a ses superstitions. Le paysan a ses superstitions. Ce ne sont pas les mêmes. Louis XIII est extrêmement superstitieux. Pour le chiffre 13. Parce que si vous prenez les lettres de son nom, Loïs de Bourbon, ça fait 13 lettres. Le nom de sa femme, ça fait 13 lettres. Il s'est marié à 13 ans. Donc Louis XIII a une glorification du chiffre 13 qu'il met tout à fait en lien avec la superstition. Alors que aujourd'hui, le 13 est négatif.
Ah oui, c'est ça. Oui, oui. On voit ici que c'est des choses individuelles et vous avez raison de le souligner. Il faut le rappeler sans cesse. C'est l'ensemble de la société qui est concernée par les superstitions. Mais je reprends l'idée que si l'on attaque des gestes, des cultes et des croyances en disant cela est superstition, si c'est le chiffre 13, ça ne va pas poser de problème majeur, si ce n'est à Louis XIII. Mais si on commence à dire, oh là là, ce culte des reliques, mais pff, superstition, là, au XVIIIe siècle, ça va commencer à chauffer.
Exactement. Et là, on va avoir des luttes tout à fait farouches. Alors, l'Église va détruire une foule de statues de saints, de reliques, etc. Et alors, les philosophes vont se prendre à la superstition. Et les athées, enfin ceux qui vont donner naissance à l'athéisme, en particulier le baron d'Holbach, considèrent que toute forme de religion est superstition. Mais d'un autre côté, un certain nombre d'hommes des Lumières, en particulier protestants, autour d'une revue qui s'appelle le Journal Helvétique, qui est publié à Neuchâtel, estiment que ce sont les athées qui sont superstitieux. Parce que l'être suprême est infiniment bon. Ne pas le reconnaître, c'est refuser l'évidence, donc de la superstition. Donc vous voyez, au même moment, des hommes des Lumières qui nient l'efficacité de la superstition, qui nient la superstition en disant toute religion est superstition, et un certain nombre d'autres hommes des Lumières qui disent mais non, au contraire, il faut aller vers un culte simple, un culte totalement régénéré, hors de toute superstition.
Avec aujourd'hui dans le cours de l'histoire sacrée superstition, une histoire entre raison et religion. Nous voyons l'évolution de ce mot, l'histoire d'un mot superstition. Philippe Martin, c'est le titre de votre ouvrage. Mais il y a aussi ces regards différents portés sur la superstition. On a évoqué l'Église, on a évoqué la médecine, on a évoqué plein de regards. Il y a le regard des philosophes.
Si les hommes étaient capables de gouverner toute leur conduite de leur vie par un dessein réglé, si la fortune leur était toujours favorable, leur âme serait libre de toute superstition. Mais comme ils sont souvent placés dans un si fâcheux état qu'ils ne peuvent prendre aucune résolution raisonnable, comme ils flottent presque toujours misérablement entre l'espérance et la crainte pour des biens incertains qu'ils ne savent pas désirer avec mesure, leur esprit s'ouvre alors à la plus extrême crédulité. Ils chancellent dans l'incertitude. La moindre impulsion le jette en mille sens divers. Et les agitations de l'espérance et de la crainte ajoutent encore à son inconstance. Du reste, observez-le en d'autres rencontres. Vous le trouverez confiant dans l'avenir, plein de jactance et d'orgueil.
Le traité théologico-politique de Spinoza, c'est une parution à la fin du XVIIe siècle, en 1670. Ici, Philippe Martin, nous avons une vraie pensée autour de la crédulité.
Exactement, la crédulité et la crainte. Voilà. Spinoza nous explique parfaitement que l'humain vit dans un monde qui est un monde qui ne le rassure pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de phénomènes naturels qui le dépassent. Au monde Spinoza, il y a toutes les questions sur les comètes. Voilà. Il vit aussi dans un monde où l'avenir n'est pas assuré. Donc, soit il vit dans une situation de crainte permanente, soit il trouve des moyens de vivre, comme le dit Spinoza, dans l'espérance. Et à ce moment-là, comment vivre dans l'espérance ? En ayant, ce qu'il dit, des phénomènes de crédulité. Autrement dit, je n'aurai pas de crainte puisque finalement, et on essaye de se rassurer de tout un tas de choses. Oui, par exemple, pendant longtemps, on a pris les bélemnites pour des éléments de superstition. Les bélemnites, c'est des animaux marins du Trias. Et ils ont laissé des fossiles à peu près grands comme le doigt et puis finis en pointe. Et alors, quand on trouvait des bélemnites, ben, qu'est-ce qui se passait ? On disait, c'est les griffes du diable. Le diable qui a ça. C'est des balles, les balles des Suédois. En Lorraine, en Belgique, c'était les balles des Suédois. Puis qu'est-ce qu'on s'aperçoit au XVIIIe siècle ? Que vous avez un certain nombre de savants, comme le jésuite Pierre Ferrière, qui vont prendre ça pour des fossiles. Autrement dit, voyez, vous avez un élément naturel qui était pris comme un élément magique parce qu'on ne le comprenait pas. Qu'est-ce que c'est ces pierres bizarres, un peu pointues ? Et puis, la science, elle progresse. Et la science progressant, eh bien, on va trouver une autre explication. Bien évidemment, il va falloir beaucoup de temps entre le moment où des savants disent les choses et le moment où les choses, elles passent dans la population. Rappelez-vous, hein, le fait que la Terre est ronde, c'est Ptolémée. C'est quand même un peu plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, il y a toujours des gens peu nombreux, heureusement, qui pensent que la Terre n'est pas ronde. Oui, donc, oui. Vous voyez, il faut que ces évidences mettent du temps à rentrer. Et le XVIIe et XVIIIe siècle, surtout le XVIIIe siècle et le XIXe siècle, vont détruire une foule de choses, mais elles seront remplacées par de nouvelles superstitions.
Oui, parce que le fait que la Terre soit plate, c'est quelque chose qui surgit aujourd'hui, sachant que nos ancêtres, et même encore au Moyen-Âge, c'était pas tellement une question. La Terre était ronde, elle a toujours été ronde. Mais ici, la naissance des superstitions, c'est quelque chose de difficile à identifier. Leur évolution, c'est très difficile aussi, mais c'est faisable. C'est le travail de l'historien, avec quand même l'idée du combat contre les superstitions. Et ce combat, il est multiple. Ça peut être par la religion quand ça ne convient pas, parce que quand ça convient, ça rentre dans le culte. Et puis par la science. Et le XVIIIe siècle, où la raison prend le dessus, fait que ces superstitions peuvent être analysées. Mais c'est là où se frotte l'idée de la religion. On le sent ici dans les propos des philosophes. Vous avez cité certains noms. J'entends bien que ce sont des gens qui vont porter un regard sur la superstition et dès lors peut-être critique sur la religion.
Exactement. Vous avez, en XVIIIe siècle, trois groupes qui attaquent la superstition. Alors, vous avez l'Église elle-même qui fait de l'ordre, hein, dans ses rangs et tout. Et l'Église est vraiment une grande pourvoyeuse de chasseurs de superstition. Vous avez les scientifiques et vous avez les philosophes. Mais ces philosophes font de l'attaque de la superstition une attaque carrément profonde, radicale de la religion. On a cité le baron d'Holbach tout à l'heure. On pourrait citer Voltaire aussi. Hein. C'est une fille très folle, dit-il, de la superstition, en voulant la définir par la religion. Hein. La superstition, fille très folle de la religion. Tout en disant, oui, mais finalement, c'est bien que mes domestiques croient en Dieu parce qu'ils ne me voleront pas ma montre. Mais moi, esprit supérieur du patriarche de Fermet, je peux ne pas être superstitieux.
Alors Voltaire, je vois bien qui c'est, le baron d'Holbach, je vois moins.
Prêtre. On désigne sous ce nom tous ceux qui remplissent les fonctions des cultes religieux établis chez les différents peuples de la terre. Il est doux de dominer sur ses semblables. Les prêtres surent mettre à profit la haute opinion qu'ils avaient fait naître dans l'esprit de leurs concitoyens. Ils prétendirent que les dieux se manifestaient à eux. Ils annoncèrent leurs décrets, ils enseignèrent des dogmes. Ils prescrivirent ce qu'il fallait croire et ce qu'il fallait rejeter. Ils fixèrent ce qui plaisait ou déplaisait à la divinité. Ils rendirent des oracles. Ils prédirent l'avenir à l'homme inquiète et curieux. Ils le firent trembler par la crainte des châtiments dont les dieux irrités menaçaient les téméraires qui oseraient douter de leur mission ou discuter leur doctrine. Pour établir plus sûrement leur empire, ils peignirent les dieux comme cruels, vindicatifs, implacables. Ils introduisirent des cérémonies, des initiations, des mystères dont l'atrocité peut nourrir les hommes.
L'article prêtre de l'encyclopédie écrit par le baron d'Holbach. Dites-nous, Philippe Martin, qui est cet homme ?
Oh, c'est un homme qui sent le soufre. Tellement que beaucoup de ses ouvrages, je ne les ai pas signés. Le baron d'Holbach pourrait être considéré comme le père de l'athéisme. Alors, c'est un homme qui vit bien, qui voilà reçoit des gens, écrit beaucoup. C'est vraiment un philosophe. C'est un philosophe qui pousse les choses très, très loin, pour considérer que l'humanité pourrait arriver au bonheur si elle n'était pas entravée par un certain nombre de choses. Et la principale chose, c'est la religion. Et comment la religion va exploiter la population en jouant sur la crainte. Cette crainte qui fait naître des superstitions. Les superstitions sont utilisées pour maintenir le pouvoir de l'Église et tout. Alors là, d'Holbach, à la fois préfigure tout ce qui viendra au 19e, puis au XXe siècle, mais en même temps effraie beaucoup. C'est un homme très très isolé au XVIIIe siècle, parce que sa pensée est très très radicale. Mais c'est une attaque profonde des superstitions chez lui.
Après la période révolutionnaire, ce qui prend le dessus, vous me corrigez Philippe Martin si je me trompe, pour lutter contre les superstitions, en tout cas pour les dénoncer ou les comprendre, c'est la science. La religion elle-même a une place particulière en France après l'épisode révolutionnaire et napoléonien aussi. Mais après c'est la religion quoi, qui est mise là en parallèle, associée à la superstition. Pour ceux qui rejettent l'ensemble, religion, superstition, c'est la même chose. Et la science, là, va essayer de démontrer les choses.
Alors, après la Révolution, on va avoir toujours l'Église, qui est toujours, aujourd'hui encore, l'Église, les Églises, je devrais dire, toutes, y compris l'islam, etc., luttent contre les superstitions, parce que ce sont des dérives. Voilà. Et on va avoir, en effet, la science, Louis Pasteur, grand pourfendeur de superstitions. Vous imaginez, quand Louis Pasteur a découvert tous les vaccins, etc., il y a des articles de journaux très très sérieux, certains journaux existent encore, donc je ne donnerai pas de titre, qui disent « Maintenant, on a deux moyens de guérir la rage, Saint-Hubert et Pasteur ». On est à la fin du 19e siècle. Donc, vous voyez, la superstition. Puis, il va y avoir un troisième courant qui va avoir un rôle extrêmement important, c'est la naissance du folklore à la fin du 18e, qui s'épanouit au 19e siècle, et on va avoir des gens qui vont consigner tout ce qui est en train de disparaître. Parce que le monde rural, le monde traditionnel est en train de disparaître, donc il faut des gens pour noter les choses et tout. Et ça va faire une base de documentation fabuleuse pour l'historien.
C'est-à-dire face à l'industrialisation, à ce monde qui disparaît, il y a la volonté de garder ces traces de ce qui était avant. Et dès lors, ça nous plonge avec la superstition dans des temps anciens. Et on retrouve cette idée-là, c'est pas une démarche historique autour du folklore. Parce qu'on ne cherche pas à raconter une histoire, on cherche à garder les traces du passé.
On cherche à garder les traces du passé. Alors, soit ce sont des écrivains. George Sand est une des autrices qui a le plus utilisé le mot superstition en pouvant parler de la campagne. Et puis, c'est la naissance de folkloristes, hein, qui sont c'est une discipline et tout, et qui vont garder ces traces, sans se rendre compte que si le monde traditionnel est en train de disparaître avec superstition, le monde actuel va créer ses propres superstitions.
Ah oui, parce que vous arrivez à les identifier, nous les connaissons, mais souvent quand on est superstition, on s'en rend pas compte parce que ça nous semble tout à fait naturel. Mais il y a des superstitions liées au monde d'aujourd'hui que vous pouvez inscrire dans votre histoire superstition, l'histoire d'un mot, jusqu'au XXIe siècle.
Ah mais tout à fait. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Alors, bien évidemment, je précise à tout le monde, c'est avec beaucoup, un certain sourire que je dis les choses.
On l'entend.
Et je ne vends aucune recette. Bon. Quand vous étiez au XVIe siècle, hein, vous pouviez utiliser des rites superstitieux autour de plantes et tout pour faire parler les morts. Bon, maintenant, pour faire parler les morts, vous pouvez utiliser votre téléphone ou votre ordinateur. C'est toujours le même besoin. Comment vivre dans l'angoisse ? Quelqu'un est mort, j'ai pas pu faire la paix avec lui. Ça, c'est l'angoisse fondamentale, c'est la crainte. Problème humain qui traverse tout le temps. Et puis chaque période donne sa superstition, c'est-à-dire son moment de faire face à ça. Donc ça va être je déterre les ossements de ma mère, je les nettoie et je les embrasse, typique du XVIIe siècle. Hein. Ça va être les tables tournantes au XIXe siècle, où c'est aujourd'hui le recours à un certain nombre d'autres choses. Vous voyez, finalement, la crainte est toujours la même, mais les moyens de la manifester, les superstitions, elles évoluent.
Vous êtes superstitieux, vous, Philippe Pimpin ?
Oui, comme le disait Alphonse Allais, comme vous l'avez rappelé. Non, ça porte malheur.
Ça porte malheur. Superstition, histoire d'un mot, c'est aussi une manière de traverser les représentations. C'est une histoire qui est sociale et on le rappellera sans cesse au cours de cette émission, ça touche l'ensemble de la société. On n'est pas sur un regard méprisant en disant « les petites gens sont superstitieux et les élites y échappent ». C'est aussi une manière de se comporter. Ça évoque la peur de la mort, ça évoque la peur de la maladie, la crainte de l'avenir, le désir de fortune aussi, l'espoir. Et c'est en ça qu'étudier la superstition, qui pourrait paraître un élément en marge, on se retrouve en fait au centre.
On est au cœur, parce que cette histoire, elle nous renseigne sur ce que sont nos ancêtres, mais sans porter bien évidemment aucun jugement. Elle nous questionne aussi sur ce que nous faisons. Qu'est-ce que j'ai dans la poche de mon blouson ? Pourquoi j'ai un petit morceau de bois ? Pourquoi dans mon sac j'ai un couteau ? Hein, comme ça, je vous révèle tout de moi.
Alors, hein ? le morceau de bois, c'est parce qu'il faut toucher du bois C'est ça ?
Ah ben, je vais vous dire non, parce que c'est un joli morceau de bois qui a une bonne odeur et que j'ai trouvé avec mes fils et je garde dans ma poche. Mais d'un autre côté, vous pourriez dire oui, vous, c'est un moyen d'avoir les choses.
Voilà, je touche du bois. Le couteau, vous avez le savon à côté pour, au cas où vous vous coupez, pouvoir guérir.
Non, le couteau, parce que... Alors, même chose, je rationalise. C'est un bel objet qui m'a été donné, donc j'ai un couteau, voilà... Je vais assez rarement m'en servir, faut le reconnaître. Mais d'un autre côté, ça va rebondir sur un certain nombre de choses, couper le fil de la vie, l'amitié, etc. Donc vous voyez, cet objet que vous pourrez trouver tout à fait anodin peut être porteur de choses. Mais d'un autre côté, en arrivant ici, j'aurais très bien pu être arrêté en disant « il a une arme avec lui !»
Ben oui, voilà. Là, ça vous aurait porté malheur. Sachant que quand on offre un couteau, faut toujours donner une pièce, hein, sinon ça coupe l'amitié.
Ou faire couler une goutte de sang.
Bon, moi, je donne une pièce.
C'est plus simple.
Vous nous avez évoqué, Philippe Martin, le fait que le regard porté sur ce qu'on a pu appeler les traditions populaires, c'est associé au folklore, a été un moment important. Et nous le vivons aujourd'hui encore, lors de la visite d'un lieu touristique, parce que il y a l'évocation de ce puits où il se passait ça, il y a l'évocation de tout ça. Le regard porté par le folklore, mais surtout le tourisme, le fait d'aller voir l'autre chose au 19e siècle, c'est ça aussi qui a mis la superstition sous une autre forme, en fait. D'un seul coup, on n'y croit pas, mais on aime bien savoir que d'autres y croient, et puis nous, on tente.
Voilà, on n'y croit pas. Vous avez déjà regardé la fontaine de Trevi à Rome, le nombre de pièces qui sont jetées dedans? Mais ça, on trouve il y a 2500 ans la même chose autour de lieux de culte païens. Vous voyez, ce besoin de croire à la chance, ce besoin de se dire, finalement, j'ai du temps devant moi, je ne vais pas avoir de malheur. Le monde ne m'est pas étranger. Je suis bien dans le monde, je suis bien dans les planètes, etc. C'est très rassurant, c'est très très humain d'ailleurs, on ne peut pas vivre sans ça.
Et puis avec ces frontières floues de la superstition, parce que nous évoquons toutes ces notions, que ce soit la magie, l'astrologie, la superstition n'est jamais loin, elle couvre l'ensemble.
Ah mais elle couvre tout, hein. Regardez, même dans le domaine politique, le complotisme aujourd'hui, le complotisme est une forme de superstition. On a une angoisse, on a une crainte et on y répond par quelque chose qui est peu logique. Finalement, ben oui, on a... Alors, quand je dis on a, c'est toujours au 12e degré, on est bien d'accord. Hein, on a ces gens qui vont récupérer des enfants, faire des messes noires, etc. Hein, ça, on trouve ça dans la sphère complotiste et tout. Mais vous trouviez ça au XVIIe siècle. Vous trouviez ça au XVIIe siècle, avec les messes noires. Et les messes noires, c'était qui? Ben, c'était la maîtresse du roi qui voulait obtenir le pouvoir, garder la jeunesse, etc. Puis on peut remonter, hein, Vlad Dracula, et tout un tas de personnages. Donc vous voyez, on a là des choses qui traversent le temps parce que nous ne pouvons pas supporter l'incertitude. Nous ne pouvons pas faire face à la crainte.
Et puis cette histoire n'est pas une histoire française, on l'entend bien, l'Europe des superstitions que vous avez co-dirigée, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Il y a tant d'histoires de superstitions à écrire partout dans le monde, avec des traits communs, le fait de jeter des trésors au fond d'une fontaine, au fond d'une source, au fond d'un puits, ça c'est quelque chose de très commun, ça fait le bonheur des archéologues.
Si ce n'est que pendant très longtemps, les peuples avec qui on discutait, nous les Européens, ne nous comprenaient pas. Enfin, ils comprenaient pas pourquoi on avait cette idée de plus, de superstition, etc. Enfin, ils comprenaient déjà même pas pourquoi on faisait la différence entre éthique, religion et philosophie. Mais non, apprenez à vivre correctement, disait-il. Vivez heureux. N'essayez pas de classer les choses. N'essayez pas de qualifier les choses. Et finalement, on leur a un peu imposé ces idées, comme on le disait il y a une heure, hein, à la fin du 19e siècle. On va imposer le concept et le concept va nous revenir. Vous avez un médecin haïtien qui dit aux Français, vous nous traitez, nous, les Haïtiens, de superstitieux, alors que vous, vous allez encore dans les pèlerinages en Bretagne, que vous avez plus de rebouteux que de médecin. Et il avait raison. On était en 1920 et il avait raison. Nous ne sommes pas les tenants, nous occidentaux, d'une rationalité qui s'imposerait aux autres. Et les autres aussi, on leur approche des choses. On leur approche de la crainte.
C'est une superbe conclusion, Philippe Martin. Merci beaucoup à vous. Un superstition, histoire d'un mot, 15e, 21e siècle. Et j'insiste sur le 21e siècle, c'est publié chez Fayard. Vous avez l'Europe des superstitions aussi, vous avez co-dirigé aux éditions du Cerf. Merci beaucoup d'être venu dans le cours
Merci
de l'histoire.
Merci à vous.
Il n'y a pas eu de chat noir, il n'y a rien eu. On a renversé le sel, je ne sais jamais si c'est bien ou pas bien. Alors je ne dis pas. Prochain épisode dans le cours de l'histoire. Napoléon était-il superstitieux?
Il y a des jours comme ça où votre vie vous échappe. Le moral en miettes et la jambe en lambeaux, vous tâchez tout de même de faire face dignement. Et c'est d'un bon pied gauche que vous plongez dans les abîmes d'une longue journée de travail. Au dehors, la sensation nettement se précise, la journée sera semée d'embûches.
Vous êtes superstitieux?
Non, parce que ça porte malheur.
Et ben voilà, on y revient toujours. En tout cas, nous croisons les doigts, nous touchons du bois, mais nous ne passons pas sous les échelles dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Cassandre Puel à la technique Marie-Claire Oumabadi. Émission préparée par Solène Roy, Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet et Maïwenn Guizhou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel pour les archives. Le cours de l'histoire est une émission à écouter, à podcaster. Celle-ci et toutes les précédentes sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.